quand on arrive du sud du Poitou et qu'on arrive donc par la route de la Roche-Posay, vous rentrez dans Preuilly et avant de traverser le pont, vous avez cette vue sur l'abbatiale, l'école, le château et toutes les grandes maisons bourgeoises de Preuilly. La vue avec la Claise qui passe en dessous, ça a ce côté vraiment pittoresque. Carte postale, France éternelle, c'est vraiment... quand on imagine un village français, c'est ça quoi.
Voix du Sud Touraine, avec Mathieu Musnier. Il nous raconte Preuilly, Singapour, Preuilly.
Alors, je suis né en 83 à Châtellerault. Effectivement, j'habitais à Preuilly jusqu'en 91. On habitait dans une maison qui était dans la grande rue, qui était où papa était pharmacien. Et ça, c'était la maison de mon grand-père, en fait. Et donc ça, c'est la maison de famille depuis 200 ans. Je crois qu'on fête les 200 ans de la maison dans la famille l'année prochaine. Et il y a des souvenirs de famille très vieux parce que mes oncles et tantes, donc les grands frères et sœurs de mon père, ont passé la Seconde Guerre mondiale ici. Et ils me disent que quand ils viennent ici, quand ils dorment la nuit, ils entendent encore le bruit des avions qui rasaient les toits, qui allaient tirer sur la colonne allemande qui rentrait par la route de la Roche-Posay. Donc il y a des. Donc pour moi c'était la maison de mon grand-père et pour parler les histoires de succession, la maison nous est revenue. Et ici c'était la maison de vacances, la maison de week-end. C'était la maison du repas de Pâques où on cachait les chocolats dans le jardin. C'était ça la maison. C'est vrai que c'est une maison qui a joué un jeu quand même assez important dans le retour en France parce que c'était avoir un cadre de vie comme ça, avoir de la place, avoir la chance d'avoir une maison comme ça, ça changeait des petits appartements singapouriens. Voilà. J'habitais à Preuilly jusqu'à mes 8 ans. Ensuite, on est parti pas très loin, de l'autre côté de la Brenne, à Buzancay. Et on revenait à Preuilly très souvent les week-ends et les vacances. Début de mes études supérieures à Tours. Et ensuite, je suis parti en école de commerce à Cergy-Pontoise. Pendant mes études, je suis parti un an à Moscou, je suis parti juste après Moscou parce que j'aimais vraiment le froid, je suis parti au Canada. Et après le Canada, je suis rentré à Paris. Et à cette époque-là, j'avais fait une partie de mes études sur l'industrie du luxe. C'était quelque chose qui m'intéressait à l'époque. Je pense que pour un gars de la campagne qui a été élevé avec des valeurs très, très simples, très, très classiques, pas traditionnelles, on va dire très classiques, avec une touche de protestantisme, parce que maman est protestante, donc toute la moitié de ma famille est protestante, donc c'est quand même, il y a quand même la sobriété, la simplicité, c'est quand même des choses qui sont un peu inhérentes dans notre famille. Arrivé à Paris comme ça, et par le jeu des hasards, je suis retrouvé ami avec des gens qui faisaient partie de ce milieu-là, des fils et des filles de gens qui travaillaient chez Chanel, chez Cartier, etc. Et donc on a commencé par faire des petits travaux d'études sur ces sujets-là, sur les produits, et de fil en aiguille, j'ai écrit mon mémoire de fin d'études sur un point de distribution de l'industrie du luxe. Et quand j'ai été diplômé, ça a intéressé les entreprises du luxe. Donc, je suis parti travailler là-dedans. Et j'ai fait ça à Paris pendant 4 ans. Et au bout des 4 années, j'ai eu l'opportunité que j'ai un peu forcée de partir vivre à Singapour. Donc, j'étais voir ma responsable dans l'entreprise pour laquelle je travaillais en disant j'ai envie d'évoluer. Et elle m'a dit « Où est-ce que tu veux aller ?» La première destination qui est sortie de ma bouche, c'était Singapour. Pourquoi ? Parce qu'avec ma compagne, on parlait à l'époque, elle me parlait depuis très longtemps de partir en Australie. Et moi, l'Australie, à l'époque, ça ne me disait rien du tout. J'ai rien contre l'Australie, mais l'Australie, c'est quand même loin, et c'est loin de tout. Et peut-être la veille ou l'avant-veille, elle m'a dit « Et qu'est-ce que tu penses de Singapour ?» Et je lui ai dit « Pareil, Singapour, je ne connais pas, j'y ai jamais mis les pieds. » Mais là, si la conversation, on était resté là. Mais donc, 2 jours plus tard, quand on pose la question « Où est-ce que tu veux aller ?» J'ai dû réagir du tac au tac et la première destination qui m'est sortie, qui m'est passée par la tête, c'est Singapour. Et elle m'a dit « Ah, ben ça tombe bien, on ouvre un gros magasin sur Orchard Road, hein, l'équivalent des Champs-Élysées singapouriens, et est-ce que tu vas aller t'en occuper ?» Je dis « Bah ok, on y va. » Et donc j'étais voir ma compagne au déjeuner en disant « Bon, je me suis un peu engagé pour nous deux, mais on part à Singapour dans 2 mois, il faut faire les bagages et on part. » trois magasins à Singapour. Je gérais une équipe d'une vingtaine de personnes. Et voilà, donc j'ai géré tout ce qui était inhérent à ce poste-là, donc la gestion des contrats de baux, des débaux avec les propriétaires, parce qu'à Singapour, tout Singapour est détenu par des fonds d'investissement immobilier, hein, il n'y a pas de propriétaire individuel, donc les gestions de contrats, puis après les gestions de ressources humaines, les gestions des ventes. On est un peu PDG d'une PME, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de chiffres d'affaires en responsabilité, des assez grosses équipes, sur des plages horaires qui sont très étendues, parce que les magasins à Singapour ne ferment quasiment jamais. Hein, c'est 10h, 22h tous les jours, 7 jours par semaine. Donc on est un peu toujours sur la brèche, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. Donc c'était... voilà, donc j'ai fait ça pendant un petit moment. Et un jour, c'est une histoire, c'était assez marrant, j'organisais une soirée pour le lancement d'un produit. Donc j'avais des journalistes, j'avais des clients, j'avais le traiteur, j'avais plein de monde à gérer, dans un tout petit espace qui était très serré, bien bien avant le Covid. Et une grosse main qui me tape sur l'épaule et quelqu'un qui me tend une carte de crédit et qui me dit « Mathieu, je veux juste savoir qu'on pense à toi. » D'un ton, c'est un peu mystérieux. Donc je mets la carte de visite dans ma poche et j'y fais pas du tout attention. Et le soir, en rentrant, donc je fais mes poches, prends mes notes sur toutes les cartes de visite qu'on m'a passées cette soirée-là. Et donc je vois cette carte-là et je vois que la carte est estampillée « Leica ». Et moi, dans ma famille, il y a pas mal de gens qui sont fans de photos. Mon père faisait beaucoup de photos quand on était petit. J'ai un oncle qui est photographe. Donc j'ai toujours eu des photographes pas très loin. Et donc Leica, c'est toujours un nom qui a une connotation un peu mystique. Et donc j'ai vu cette carte. Ah, Leica, c'est quand même intéressant. C'est quand même pas n'importe quoi. Mais c'était en 2010. Et... En 2010, Leica, c'est la période où Leica a frôlé la banqueroute. Leica a eu des très hauts et des très bas. Et en 2010, la boîte était vraiment très, très bas. Donc, je regardais un peu les nouvelles, puis c'était compliqué. Bon, il y avait différentes marques, le groupe était divisé. Je me suis dit, bon, c'est intéressant, mais on verra bien. Et j'y pense pas. Et quelques mois plus tard, je reçois un email de ce monsieur-là qui dit, Mathieu, je veux que tu saches que Leica vient de reprendre la possession de la filiale de toute l'Asie et on aimerait que tu nous rejoignes pour t'occuper des ventes. Est-ce que ça t'intéresse ? J'ai dû hésiter à peu près 30 secondes. Très vite, je me suis occupé des magasins et des revendeurs en Malaisie, aux Philippines, en Indonésie. Et après, j'ai commencé à gérer des contrats de distribution régionaux. J'ai nommé des nouveaux distributeurs en Thaïlande, par exemple. Donc, je voyageais beaucoup, je me déplaçais beaucoup dans ces pays-là. Et voilà. Et à la fin, j'étais responsable des ventes pour Leica, pour l'Asie du Sud-Est, avec plein d'équipes, plein de territoires, beaucoup d'avions, pour une boîte absolument, un produit absolument magique. Et j'ai fait ça pendant 4 ans, 4-5 ans. Et donc, après ces quelques années chez Leica, un ami m'appelle. Et cet ami, il dirigeait la filiale Asie d'une très belle entreprise française, mais qui s'était lancée en Asie un peu par opportunité, mais sans réel plan de développement, alors qu'ils étaient très puissants en France. Et il avait fait 2-3 ans, ça se passait bien, mais il était très parti, il avait une autre opportunité et il partait. Et donc un jour, il m'appelle et il me dit « Mathieu, je quitte la maison du whisky, pour ceux qui connaissent. Je quitte la maison du whisky, est-ce que... Et je veux recommander quelques personnes pour prendre ma place, juste pour raccourcir le process de recrutement. Est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce que tu veux que je mette mon nom ? C'est moi qui ai eu le poste. Et donc, je me suis retrouvé en charge de la maison du whisky pour Singapour et pour l'Asie à 29 ans, 30 ans. Donc, avec quelques millions d'euros de chiffre d'affaires à gérer, une équipe. Là, vraiment responsable de succursale complet. Et donc, une nouvelle mission qui commençait. J'avais un catalogue d'un millier de références que je devais acheter aux quatre coins de la planète, faire venir à Singapour, passer tout le côté administratif, douanier, logistique, etc. Et ensuite, je distribuais ça à à peu près 300 établissements sur Singapour, beaucoup de restaurants étoilés, beaucoup d'hôtels. À Singapour, il y a 70 hôtels 4 et 5 étoiles, donc ça donne une taille de marché assez importante pour des produits... pour des produits premium. Et ensuite, on a commencé à attaquer les autres pays. Donc, j'avais des contrats d'importation, pareil. Et c'est là où ma compétence dans la région était utile parce que Je vendais beaucoup en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, en Australie, en Corée, un peu partout. Quand vous êtes un producteur de bonne tequila ou de bon mezcal ou de bon cognac, vous êtes généralement une petite maison dans votre pays d'origine. Et l'accès au marché, c'est la clé. Vous n'avez pas du tout les moyens d'aller prospecter, d'aller passer 6 mois sur la route, prendre les billets d'avion, les hôtels, les échantillons, etc. C'est des missions de prospection qui sont hors de prix et hors d'atteinte souvent pour des petites maisons. Donc ces maisons-là se reposent sur des distributeurs qui ont des portefeuilles. Mais donc vous êtes responsable vis-à-vis de ces maisons-là pour le succès de leurs produits. Ce qui est une relation beaucoup plus proche et humaine que si vous êtes juste un grossiste pour une énorme marque. Vous avez des relations qui sont très proches et très fortes, et vous parlez toujours avec des gens qui sont passionnés. Vous parlez très peu avec des commerciaux ou des gens du monde de l'entreprise. En fait, vous parlez beaucoup avec des producteurs, et donc vous trouvez avec parler avec un producteur de bourbon du Kentucky, un producteur de tequila et de mezcal du Mexique, un producteur de gin en Finlande, un producteur de whisky en Irlande qui a un rôle absolument stratégique à relancer complètement l'industrie du whisky, et il s'appuie sur vous pour son succès en Asie. Et en bout de chaîne, vous appuyez, vous parlez avec quelqu'un qui a 5 restaurants en Indonésie, qui a des contraintes technico-légales très fortes, mais qui, pareil, lui, il a des centaines d'employés, il a une entreprise à faire tourner, et des fois, le gouvernement dit plus d'importations pendant 6 mois. Et donc, vous avez vos clients en bout de ligne qui ont des challenges. Donc, c'était extrêmement humain, extrêmement vertical du producteur jusqu'au client final. Et on avait un rôle extrêmement central là-dedans. C'était absolument passionnant. Seul bémol, parce qu'il y a forcément un bémol, parce que la façon dont j'en parle, mais pourquoi est-ce qu'il a arrêté, c'est que tous les gens qui ont connu des gens qui travaillent dans l'alcool, ou tous les gens qui ont travaillé dans l'alcool, savent qu'il y a une date butoir. Travailler dans l'alcool, ça implique beaucoup de représentations, ça implique beaucoup de déplacements, et moins, alors en Europe moins, mais en Asie, la représentation commerciale, ça implique beaucoup de très très longues soirées. De très longues soirées qui souvent terminent au petit matin. Et quand vous allez dans un pays, typiquement le client vous prend en charge de l'avion à l'avion. Et c'est hors de question. C'est très, très, très compliqué de lui dire non, désolé, on ne sort pas. Enfin, vous venez lui vendre des produits. Le gars, il veut vous montrer ses 5 restaurants. Il veut vous amener en boîte de nuit, etc. Et c'est quand vous avez 20 ans, 30 ans, ça va. Il y a un âge où, et surtout après quelques années, où on n'a pas forcément envie de sortir jusqu'à 5h du soir un mardi, parce que le lendemain, il faut quand même bosser. Et voilà, ça devenait juste pesant. Parce que c'est une part importante du travail. Vous devez aller, quand vous avez les meilleurs bars de Singapour qui ont été votés numéro 1 bar d'Asie, qui sont numéro 5 ou 7 bar dans le monde, et que c'est un de vos plus gros clients, vous êtes tenu d'y aller un voire plusieurs soirs par semaine, de commander des verres et de montrer au patron que vous les soutenez, que vous êtes là pour les remercier de leur travail. Donc vous êtes entre guillemets un peu obligé de consommer de l'alcool non-stop. Et ça fait partie du travail, il faut l'accepter. Mais le jour où vous ne voulez plus l'accepter, ça ne sert à rien de rester parce que voilà. Donc moi j'ai choisi d'arrêter. Parce que 5 ans, c'était fun, mais bon, à un moment, il fallait passer à autre chose. Je pense que ça arrivait un peu au stade où soit je rendais mon passeport et je devenais singapourien, soit je rentrais en France. Ouais. C'était un peu le next step. Et c'était hors de question de rendre mon passeport. Devenir résident permanent à Singapour, c'était extrêmement compliqué. Pour des gens dans le commerce, c'est quasiment impossible, j'ai envie de dire. Ou alors, il faut des niveaux de revenus extrêmement, extrêmement élevés. Et puis, il y a une raison personnelle. J'avais envie que mon fils, quand même, vive en France, qu'il est né à, il est né à Singapour. Mon père a une santé très fragile, avec des problèmes assez, assez importants ces 10 dernières années. Je voulais pas un jour que ma mère m'appelle en disant bah, « Papa est parti, j'étais pas là ». J'ai pas pu passer quelques années au moins avec lui. On s'est bien amusé pendant 10 ans, on a eu beaucoup de responsabilités, on a beaucoup appris, beaucoup fait, beaucoup voyagé, beaucoup vécu. Mais là, il faut être sérieux un petit peu hein, pendant un moment. Il est temps de passer à quelque chose de plus terre à terre et de construire pour l'avenir. Je me suis marié juste avant de partir en Asie avec une femme française, enfin en France. Et la vie, typiquement la vie singapourienne, nous a lentement mais sûrement séparés. Je pense que c'était trop de sacrifices, trop de déplacements, trop de voyages, trop le nez dans le guidon pendant des années, à essayer de joindre les deux bouts parfois, trop de tout en fait. C'était trop, jamais un moment de répit, un moment de calme. Et donc on a eu notre fils juste quand on est arrivé à Singapour, mais malheureusement, notre relation s'est terminée en 2017. Donc le fiston avait 6 ans. Et j'ai rencontré Sian, donc ma compagne actuelle, deux ans plus tard. On s'est rencontrés par le travail, on s'est rapprochés grâce au travail. Forcément, on s'est trouvé énormément d'affinités personnelles et professionnelles communes. Même si moi, ma passion est beaucoup plus dirigée vers les spiritueux, elle est une accro à la gastronomie. Elle passe ses journées à lire des recettes, à lire des ouvertures de restaurants, des reviews de restaurants. C'est un truc qui la fascine depuis toujours. Et à tel point qu'elle écrivait déjà quand elle était cuisinière. Elle était cuisinière pendant 5-6 ans. Qu'ensuite quand elle est partie en agence de presse elle continue d'écrire à son compte à l'époque des blogs qu'ensuite les réseaux sociaux sont développés elle était un peu là au début et que voilà que sa voix à Singapour et plus a commencé à porter et comme ça qu'elle est devenue journaliste gastronomique et qu'elle a été sélectionnée par les World 50 Best pour être le Taste Hunter de là-bas et que maintenant elle est le Taste Hunter des World 50 Best pour la France. Et moi, je lui ai dit, écoute, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, qu'on se connaît, mais moi, il faut que tu saches que l'idée de rentrer en France je commence à sentir l'appel du pays. Et je lui ai dit, écoute, moi, je vais rentrer en France et j'ai belle intention de me trouver un petit hôtel ou un petit restaurant et d'aller me réinstaller à la campagne. Voilà. Je viens du fin fond de la Loire-Vallée. Elle savait très bien ce que c'était parce qu'elle a déjà bu... goûter tous les vins, ah oui, Chinon, ça savait très bien de quoi je parlais. Et elle dit, mais c'est incroyable, moi, c'est mon rêve depuis toute petite d'avoir un petit bed and breakfast à la campagne, depuis l'époque où je vis en Australie, où j'en faisais souvent, etc. On dit, bon, c'est marrant, mais t'es quand même une bonne citadine, t'as toujours grandi à Singapour, t'as fait les très hautes études à Singapour, ensuite t'as été à Sydney, t'es quand même une fille de la ville. Moi, je te parle d'aller vivre dans un bled de 1000 habitants, au fin fond de la Loire. Il faut quand même que tu saches où tu mets les pieds. Je lui dis, donc cet été, on va prendre tous nos soldes de vacances de l'année et tu vas venir passer un mois en France et puis tu vas voir. Puis la vie française, tu ne parles pas la langue. Il faut que tu vois au-delà de l'aspect carte postale, c'est génial, je suis en France, de ce que c'est la vie ici. Et donc on est venu à l'été 2019 et moi, j'étais voir les propriétaires de la maison du whisky à Paris. Je leur ai dit, ça y est, voilà. Pour moi, l'aventure se termine. À la fin de l'année, j'arrête. Donc, ça nous laisse 6 mois pour trouver un successeur. On a tout le temps qu'il faut. Mais moi, là, 5 ans, je souhaite pas continuer. Je vais rentrer vivre en France. Et on est revenu ici. on veut beaucoup de brainstorm sur qu'allait devenir notre projet. Puisque c'était beaucoup d'idées, mais beaucoup, beaucoup d'idées, mais il n'y avait pas un fil conducteur. Il n'y avait pas une clé de voûte dans le projet qui connectait tout ce qu'on avait envie de faire, ce qui est des tables d'hôtes, des gîtes, des dîners ponctuels, des événements, un festival, plein de choses. Mais il manquait une clé de voûte, vraiment un lieu depuis lequel on pourrait organiser tout ça. Parce que forcément, on revient ici, mais on n'a pas du tout envie de faire table rase du passé et de couper le pont avec notre histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai très envie de faire venir des producteurs de spiritueux ici. Avec Sian, surtout elle, a beaucoup de contacts avec des chefs et des sommeliers de restaurants étoilés qui, depuis qu'ils savent qu'on est parti en Loire, ont très envie de venir parce qu'ils nous disent tous, on a tous fait la Bourgogne et le Bordelais, mais la Loire, on n'y a pas été parce que c'est compliqué, c'est morcelé, c'est compliqué pour visiter, c'est plus compliqué pour visiter les domaines. En plus, c'est très étendu, donc voilà, on n'a pas fait. Si vous êtes en Loire, je vais venir et puis vous allez me faire visiter. Et puis voilà, donc c'est cool, tant que tu viens. Moi, je te fais faire un dîner, et puis on sera génial pour les gens de la région de goûter la cuisine du super chef singapourien qui a 2 étoiles, qui est un taré des oignons des Cévennes, d'avoir accès à ce genre de chef. Donc, on pensait faire tout ça. Et donc, on est venu en août 2019. Et en fait, on n'a pas cherché très longtemps, parce qu'il s'est trouvé que l'image était en vente depuis le mois de février. Et donc l'image à Preuilly, il y a eu une hostellerie de l'image à Preuilly depuis presque 350 ans. C'est très très vieux. Mais jusqu'à la fin du 19e, l'hôtel était plus haut dans le village, il était rue de l'Horloge. Et en 1883, l'hôtellerie de l'image s'est déplacée dans le lieu qui est le lieu actuel. Donc ça fait 135 ans que l'image est dans le lieu, là, sur la place des Halles de Preuilly. Jean-Michel Chedozo. Et quand même la réputation d'être et a été un excellent chef dans ce lieu pendant 33 ans, 34 ans, avec énormément de fidèles. Et avant lui, c'était aussi un très grand cuisinier. Donc l'image a toujours véhiculé cette image justement de lieu occupé par des bons vivants, d'endroits où on se sent bien, où on mange bien, on se repose, voilà. Donc ça collait parfaitement au projet. Partir à 13 000 km de la France pour qu'on se dise, ah oui, en fait, avoir une géographie tellement variée, avoir des activités naturelles tellement variées, très souvent gratuites, avoir une quantité de châteaux, d'abbayes, de maisons, de choses à visiter, avoir tout ce, et avoir des tellement de producteurs qui font des produits de qualité, que ce soit dans des maraîchers, des agriculteurs, dans le vin, dans le fromage, enfin bref, tout. Et il faut aller dans des pays en fait, où il n'y a rien de tout ça pour se rendre compte qu'on est quand même bien. Et donc, c'était un peu tout ça. C'est-à-dire qu'on disait, en fait, effectivement, il y a un cadre de vie. Dans la chance d'être dans une très grande maison en ville, donc un cadre de vie vraiment, vraiment sympa, mais avec un vrai terroir, un vrai patrimoine, avec des choses à faire, dans une situation, un endroit géographiquement... où on est quand même à Preuilly, on est quand même à la même distance de 3 préfectures, c'est-à-dire qu'on a la même distance de Tours, de Poitiers et de Châteauroux, donc vous êtes près de très grandes villes d'agglomération, accès à tout ce qu'il faut, que ce soit santé, éducation, shopping, il y a tout. Et vraiment au l'hypercentre de l'Europe, où vous pouvez être à Londres en 1 heure, à Paris en 1 heure, enfin... Donc, on s'est dit, voilà, banco, c'est là. Elle s'est dit, bon, Mathieu, il n'est pas complètement fou. Il a quand même réfléchi à son truc. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait à Singapour à travailler comme des, comme des fous pour un salaire très important, mais pour payer des charges qui sont également importantes. Donc en fait, pour rien, pour un bilan nul. Alors qu'en fait, Mathieu, il a prévu de rentrer en France et de construire quelque chose, de valoriser le patrimoine d'un terroir qu'il passionne et qu'il aime parce que c'est chez lui, mais qui en même temps, on peut nous construire une aventure, un vrai projet de vie et faire quelque chose qui nous passionne et qui va nous, en retour, va nous permettre de vivre. On ne sera jamais milliardaire, de toute façon, ce n'est pas l'ambition, on n'a pas envie d'être riche. Mais on sera chez nous, entouré des gens qui nous aiment. Voilà. La reprise de l'image n'a pas pu se faire pour diverses raisons. Le Covid étant en fait un facteur aggravant, mais n'étant pas le facteur déclenchant. C'est un projet qu'on a tellement mûri et qu'on est tellement convaincu du potentiel et de ce que ça représenterait pour ici qu'on a vraiment envie de le faire. Et on est d'autant plus rassuré et convaincu que. On avait prévu dans un temps 3 ou 4 de faire des plans emportés depuis l'image. Parce qu'on se disait, bon, en semaine, l'image, il y a quand même peu de chances pour que la cuisine soit pleine et 100% occupée et que ce soit noir de monde. On se disait, bon, il faudra quand même travailler, il faut quand même occuper les cuistots ou nous occuper nous. L'idée, donc, on avait prévu un type de. Un peu bistrot moderne pour la cuisine. Et on se disait. Il y a quand même d'autres cuisines qui nous passionnent, forcément la cuisine chinoise, mais la vraie cuisine chinoise, et les burgers. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les burgers, il y a beaucoup de gens qui aiment aller au McDo. Nous, on parle de vrais burgers, c'est-à-dire on fait des pains briochés maison nous-mêmes, on choisit nos mélanges de viande qu'on hache nous-mêmes. Ça fait un petit moment qu'on travaille sur nos recettes de burgers. On les a essayés plusieurs samedis ici, et en très très peu de temps, on a une petite bande d'accros à nos burgers. Nous disait, bon, on ferait ça plus tard. Mais bon, vu qu'il n'y avait pas d'hôtel, bah, il fallait quand même bien s'occuper. Et donc, on a décidé de lancer la vente à emporter en premier. Et donc, au 1er février, on s'est lancé avec Makan Kaki. Makan Kaki, ça veut dire en argot singapourien, ça veut dire compagnon de bouffe. Makan, c'est manger. Et Kaki, c'est des potes. C'est des potes. Donc, souvent, vous allez à Singapour, les Singapouriens vous demandent, avant même de vous demander bonjour, la façon de dire bonjour, ça va. Là-bas, c'est dire bonjour, t'as mangé. Donc, les gens vous disent en premier, ils vont dire bonjour, t'as mangé, un peu tout de suite. Et donc en anglais, c'est en argot local, en singlish, ils vont dire Makan, est-ce que t'as bouffé quoi. Voilà. Et Kaki, c'est les potes. Et Makan Kaki, c'est une expression parce que à Singapour, les gens sont toujours tellement dehors en train de manger que justement, les Makan Kaki, c'est cet acte de se retrouver autour d'une table. Et vu que Singapour géographiquement c'est peu étendu, vous allez avoir des gens qui mangent ensemble le midi depuis qu'ils sont gamins, et donc la vie va les amener complètement dans des sens. Hein. Mais vous allez tous les midis, vous allez voir des tables avec des gens qui mangent ensemble. Peut-être y en a un qui est devenu banquier, l'autre est devenu avocat, l'autre est devenu prof, hein. L'autre est au chômage, l'autre est à la retraite. Mais depuis qu'ils sont gamins, ils vont manger le même bol de nouilles dans le même restaurant. Et donc voilà, c'est cet acte de manger ensemble, de partager. Et pour nous, la nourriture, ça, c'est quand même ça. C'est cet acte de partage et c'est ce vecteur que ça a de ramener les gens ensemble et de passer un bon moment. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on essaie de promouvoir à travers de nos produits. Et donc, on a lancé Makan Kaki le 1er février. On fait de la cuisine, ce qu'on appelle... Alors, j'ai toujours pas trouvé la bonne traduction française. C'est ce qu'on appelle en anglais la comfort food, la cuisine de confort. Plus de la cuisine réconfortante, qui est cette bonne cuisine maison qui fait du bien à l'estomac et à l'âme après une mauvaise journée ou après. Voilà. Donc on a tous des recettes de famille comme ça, ou que nos mamans nous faisaient quand on était gamin après une sale journée, on rentrait de l'école et puis nous faisaient purée saucisse. Voilà. Et ben, dans la cuisine chinoise, il y a l'équivalent. Et il y a des choses avec lesquelles, surtout Sian a grandi, que moi j'ai découvert pendant mes 10 ans à Singapour, que j'adore. Et donc, on est ravis de proposer ici et qu'on arrive vraiment à reproduire extrêmement bien. Déjà parce qu'on a tous les produits nécessaires. Ça, c'est un autre point positif de l'Indre-et-Loire. C'est que pour ceux que ça intéresse, il y a deux très bons magasins d'épicerie asiatique à Tours où vous pouvez trouver toute l'épicerie nécessaire pour faire la cuisine asiatique. Mais il y a même un point, je pense, sur lequel on est encore meilleur, c'est la qualité des produits. Parce qu'en Asie du Sud-Est, maintenant, les matières premières, vous avez tout trouvé tout le temps, mais des qualités... Alors, les produits sont tout le temps très jolis. Donc, les tomates sont toujours parfaitement rondes, mais elles ont jamais de goût. Donc les légumes sont tellement, tellement verts et tellement nickel. Pensez que c'est de la dinette, mais en fait ils ont généralement pas très bon. Et le cochon, les fermes porcines. Je sais qu'en France il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de controverses autour des filières animales. C'est que le bien-être animal, c'est un sujet quand même où les gens sont quand même très sensibles aujourd'hui, nous les premiers. Vous voyez les fermes porcines en Indonésie, ça fait peur, hein, c'est un peu des films d'horreur, quoi. Donc vous avez de la viande qui est de qualité franchement médiocre. Alors qu'ici, on a des bons légumes, on a des bons fruits, on a des très bons produits laitiers forcément incroyables. Et niveau viande, on est vraiment servi. Donc on travaille beaucoup le porc, parce que le porc, c'est comme la viande de prédilection dans la gastronomie chinoise. Et on s'éclate avec le roi rose de Touraine, qui fait quand même des très bons produits, qui tient très bien en cuisine et qui a cette balance viande gras de qualité qui fait à la fin que vous faites des viandes rôties ou mijotées qui se tiennent, qui sont juteuses, qui sont parfumées. Mais en sachant aussi que vous mangez un animal qui a été respecté, qui a été traité correctement, qui a pas été bourré de médicaments etc. Et vous faites travailler un producteur local. Alors, jour de marché, typiquement, madame termine généralement très tard parce que on n'aime pas spécialement cuisiner. Enfin, je dis on n'aime pas cuisiner en même temps, mais elle aime surtout pas cuisiner quand je suis dans ses pattes. Donc typiquement, moi je commence la veille, je lance des marinades, je prépare mes viandes, je portionne, je fais beaucoup de choses. Donc je termine vers 23h. Ensuite, madame prend le relais sur des produits qui doivent mijoter pendant toute la nuit. On a un plat de porc braisé, par exemple, qui a toujours beaucoup de succès au marché, mais qu'il faut lancer vers minuit pour qu'il soit prêt à 7h le matin. Donc, madame, les jours où on fait des petits pains à la viande, ce genre de choses, ouais. Y a toujours des raviolis à faire, elle termine en général vers 2h du matin. Moi, je mets le réveil à 4-5h, dépendant de la quantité de travail que j'ai à faire. Je me lève, je démarre les fourneaux. Je lance la cuisson de certaines de nos viandes, mettre très longtemps à cuire, donc je relance des choses, je lave les légumes, voilà. Et madame me rejoint à 6h, 6-7h. Et à 9h30, on est au marché jusqu'à 13h.
Ça, c'est du chicken rice, donc c'est un poulet entier poché, un plat vraiment super typique de Singapour. Et qui est servi avec du riz qui est cuit dans le bouillon de pochage, dans le liquide de pochage, avec des aromates. Et ça, c'est une petite entrée. Et à Singapour, c'est vraiment le plat de rue qu'on mange un peu sur le pouce à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et on a une crème de mangue aussi qui en 2-3 mois après lui est devenue assez, assez populaire. Vous voyez ce que c'est? C'est un dessert typique de Hong Kong. Et là, sauf qu'on le fait avec de la bonne purée de mangue. C'est 100% mangue. Donc, ça marche bien.
C'est vraiment chouette de voir les gens qui reviennent surtout. Parce que bon, vendre un plat une fois, c'est bien. Mais bon, si les gens ne reviennent pas. Alors, je suis sûr que depuis le temps qu'on a fait, on en a fait tellement. Il y a des gens qui ont plus ou moins aimé, mais... On a quand même beaucoup de gens qui sont venus beaucoup de fois, donc on se dit que ce qu'on fait, c'est quand même pas mal. Et beaucoup de gens qui nous parlent de certains de nos plats en disant les raviolis, typiquement. J'ai tellement de gens qui me disent, mais ces raviolis, ils sont extraordinaires. C'est ce plaisir-là qu'on voulait donner aux gens, quoi. Mon objectif, c'est que Preuilly a pendant très longtemps été une destination culinaire ou gastronomique, hein, sur le vocabulaire choisi. Peut-être un peu moins ces deux dernières années. Même si Christophe Cadieu, quand même, lui, a bien tenu sa barque à la Claise. Mais donc, depuis que les frères chez Dozo ont décidé d'arrêter, c'est vrai que ça a fait un trou à Preuilly. Et il faut que Preuilly continue d'être une destination gastronomique. Il faut que les gens, il faut que dans la région, on se dise, pour dîner, c'est Preuilly. Preuilly vient de passer un cap très important où tous les notables et tous les commerçants s'étaient installés un peu en même temps dans le début des années 80, sont tous partis à la retraite. Et donc, il y a eu un renouveau générationnel. Donc, voilà, donc l'épicier est jeune, le charcutier est jeune, la coiffeuse est jeune, le dentiste est jeune, les restaurateurs sont jeunes. Voilà, donc, il y a une boucle, il y a une page qui s'est tournée. Maintenant, on commence une nouvelle page pour Preuilly. Et donc, nous, le Covid, en mettant à part tous les aspects désastreux de cette épidémie, qui a mis en lumière la qualité de vie du terroir en France et à quel point on pouvait, et puis qui a démocratisé totalement le télétravail. Hein. On se dit que quand même, il y a, et on le voit, hein, enfin, le marché immobilier marche plutôt très bien. La fibre optique qui va arriver là, dans les 1 ou 2 ans qui est en cours d'installation à Preuilly. Le fait d'être... On a déjà beaucoup, quand même, beaucoup de Parisiens qui habitent ici à mi-temps. Parce que si vous pouvez passer 4 jours dans votre grande maison à la campagne, vous pouvez télétravailler et être en 1 heure à Paris avec le TGV, vous pouvez vous faire une vie vraiment, vraiment sympa. Et vous manquez de rien.
C'était Voix du Sud Touraine avec Mathieu Musnier. Un podcast proposé par la communauté de communes Loche Sud Touraine, signé Anne-Claire Bulliard.